Ces brèves ouvertures sur ce que pourrait être l'économie de demain, si nous le voulions, laissent entrevoir les immenses possibilités d'un système conciliant enfin les aspirations intellectuelles et morales universelles avec les impératifs économiques les plus péremptoires. Dans un tel système, l'homme riche serait nécessairement un génie authentique dans sa spécialité, ce ne serait que justice enfin.
Yves Klein esquisse ses grandes lignes du système économique de la Révolution bleue, 1959.
Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors je vais te présenter brièvement avant qu'on parle de ta dernière publication. Donc Sophie Crass, tu es maître de conférence en histoire de l'art contemporain à l'Université Paris 1. Tes recherches ont porté jusqu'à présent sur le rapport des artistes à l'économie et comment ces rapports s'incarnaient dans des œuvres, avec notamment un ouvrage tiré de ta thèse, paru en 2018 aux Presses du Réel, et intitulé « L'économie à l'épreuve de l'art, art et capitalisme dans les années 60 ». Tu as continué depuis à t'intéresser à ce rapport que les artistes entretiennent avec l'économie, ce qui a donné lieu donc à cet objet qu'on a dans les mains, que je vais essayer de décrire. Il s'agit d'une anthologie publiée par l'édition B42 et qui s'intitule donc « Écrit d'artistes sur l'économie, une anthologie de modestes propositions ». Alors pour commencer ensemble cette discussion, je voulais te proposer de lire un très court extrait du premier texte qui ouvre l'anthologie, un texte de John Ruskin, que peut-être tu présenteras un peu plus en détail, mais qui me semble intéressant de placer pour inaugurer en fait cette conversation. Donc John Ruskin introduit là un essai, qui est intitulé de manière assez mystérieuse « Munera Pulveris, Six Essays on the Elements of Political Economy », paru en 1872. Je lis. « Le traité qui suit n'a pas pour objet, comme on l'a affirmé avec une opiniâtreté désolante, de remplacer la science par les sentiments. Mais il démasque ce qui se prétendait insolemment comme une science. »
Merci. Alors, effectivement, John Ruskin, qui est l'auteur par lequel débute en fait cette anthologie, c'est un personnage assez exemplaire. C'est quelqu'un qui est d'abord connu comme un critique d'art, un historien d'art très, très important. C'est aussi, dans une certaine mesure, un praticien de l'art lui-même. Mais il était aussi, en plus de tout ça, un économiste. Il a enseigné, il a professé l'économie et je dirais dans une perspective de réforme sociale. C'est une figure qui m'intéresse parce que c'est l'une des dernières figures d'économistes non spécialisés, en fait. Un économiste comme un penseur, comme un intellectuel universel, on dirait, qui est non seulement économiste, mais savant, philosophe, connaisseur de différentes disciplines. Et dans cette citation là que tu as lue, il exprime ce qui me semble être en fait un parti pris très important de tous les textes finalement de cette anthologie, c'est-à-dire une manière de contester une certaine fermeture de la science économique sur elle-même qui se joue exactement à ce moment-là, en fait, dans le dernier tiers, le dernier quart du 19e siècle. Un moment où l'économie en tant que discipline va se professionnaliser, se standardiser, se refermer sur des critères d'expertise, mobiliser des outils formalisés, mathématisés, qui vont exclure en fait le grand public et même, je dirais, le reste des professions intellectuelles de ce champ-là. Et c'est un petit peu en résistance à ce mouvement de fermeture que Ruskin écrit et qu'il affirme de manière assez provocatrice, avec une certaine morgue, que seul quelqu'un qui connaît la pratique des beaux-arts peut en réalité se prévaloir d'une quelconque connaissance sur la notion de valeur et donc sur la discipline économique.
Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est récurrent dans les textes qui nous sont donnés à lire dans cette anthologie, la part d'humour souvent mordant de leurs auteurs et leurs autrices, et également la part de liberté qu'ils s'accordent en allant chasser sur les terres de l'économie, mais pas seulement finalement. On voit par exemple Ruskin faire référence tout de suite à un chimiste. La palme revient sans doute à Isidore Isou, qui mentionne les cartographies ptoléméiques et coperniciennes. et qui est aussi l'auteur donc, de divers traités d'économie nucléaire, la cladologie, cette science qui était censée recomposer l'ensemble des sciences humaines, sociales et dures. On sait qu'il est aussi l'auteur d'un traité de mathématiques au début des années 60 et qu'il commet même un traité à nouveau, un fondement d'une nouvelle physique suivi des fondements d'une nouvelle chimie dans les années 80. Voilà, j'ai l'impression que cette anthologie témoigne aussi d'une volonté de dynamiter un petit peu la connaissance de la part de ces artistes.
Oui, tout à fait. Moi, c'est exactement ce qui m'intéressait en fait dans ces textes. C'est un rapport au savoir qui refuse en fait ces frontières disciplinaires qui se construisent à la fin du 19e et au 20e siècle. Cette idée que les disciplines des sciences humaines et sociales doivent, et même des sciences dures, hein, doivent s'enrichir les unes des autres, se mélanger, et que c'est comme ça qu'elles seront productives. Et cette idée aussi que les artistes doivent se sentir autorisés à y intervenir, qu'ils peuvent construire leur propre expertise sans être un expert patenté. Pour moi, un grand moment en fait, de référence de cette position intellectuelle, c'est le moment de la fondation du Collège de sociologie, donc entre 1937 et 1939, avec notamment Georges Bataille, avec aussi Pierre Klossowski, qui est un dessinateur et écrivain qui est aussi présent dans l'anthologie. Et c'est un lieu où, de manière explicite et réflexif, et penser l'idée d'un mélange en fait des sciences humaines et sociales.
Alors on a entre les mains un objet qui est une anthologie. C'est pas la première d'ailleurs publiée par l'édition B42. Elle avait été précédée par une anthologie éditée par Tony Com et Juliette Paulet autour de l'idée de confort. Pour pouvoir discuter un petit peu de ce que contient en fait cet objet anthologie. Je voulais réfléchir avec toi, d'ailleurs toujours dans la lignée de Ruskin, hein, à cette espèce de distinction qui structure toute la pensée de Ruskin et qui me semble être intéressante pour aborder les textes de cette anthologie et leur sujet et leur manière de réfléchir. Cette opposition donc, que fait Ruskin entre les arts qui gardent la trace de la main humaine, les arts qui ont donc des défauts dans leur produit, dans leur aspect final, des arts qui héritent en fait de l'artisanat et qui l'opposent aux arts parfaits qui sont produits par les machines et par l'industrie. Alors c'est pas du tout l'objet du texte de Ruskin, mais c'est à croire qu'il n'arrive pas à faire l'économie justement de cette espèce de dichotomie dans sa tête, hein, puisque dans son texte il évoque à la fois les peintures du Tintoret à Venise dont il observe la destruction progressive par les eaux et par les balles des Autrichiens, je crois, je ne sais plus, aux petites gravures parfaites qu'on trouvait dans les magasins parisiens. Donc il y a là une opposition entre une espèce d'art avec défaut et d'art parfait, qui me semble être reflété, alors je fais ça de manière un peu massive et tu iras plus dans le détail, entre des textes qui relèvent, où les artistes en fait parlent en économiste, reprennent cette dimension affirmative, un peu masculiniste aussi peut-être, de la discipline, qui est donc éminemment scientifique, avec ce qu'on pourrait appeler donc des traités, qui en reprennent les codes linguistiques, littéraires, et qui prétendent donc refonder l'économie. Et puis, des textes tout aussi savoureux, mais dans une autre manière, qui, au contraire, font de l'économie en artiste, c'est-à-dire avec ce qu'on pourrait appeler une forme d'insolence ou une forme de désinvolture, ou en tout cas avec humour, où le travail donc, est conçu de manière tout à fait différente de celle de cette première veine que j'évoquais à l'instant.
Oui, alors c'est vrai que je pense qu'il y a presque toute la gamme en fait, des possibilités qui est explorée dans ces textes. On peut dire qu'il y a deux pôles qui viennent un peu aux deux extrêmes. Le premier, comme tu le décrivais, est un pôle très économiste et qui correspond aussi au statut de certains textes de l'anthologie qui ont été écrits depuis le champ économique, au moment où ces artistes sont réellement économistes et écrivent en tant que tels. Je pense en particulier à Vassili Kandinsky, dont on publie un extrait de la thèse de doctorat en économie, donc c'est vraiment un texte académique, ou encore à la thèse aussi de master en sciences du travail de Charlotte Pozanensky et Burkhard Brunn, qui là aussi est un texte académique écrit depuis le champ des sciences économiques. Et ça va à l'extrême opposé à des textes comme celui de Joe Scanlan ou de Louis Kamnitzer qui ont délibérément un positionnement au deuxième degré qui s'adresse plutôt aux artistes dans leur manière de penser les questions économiques. Donc on est en fait dans un éventail très large qui est d'ailleurs exploré. Entre les deux, il y a vraiment toute la gamme des possibilités, des textes très informés, très érudits, qui s'adossent sur des références explicites, sur des concepts bien connus des économistes, et des textes délibérément amateurs qui bricolent avec les notions. On a aussi des textes qui ont un côté véritablement appliqué. Je pense au texte de Jack Green, qui est donc un artiste aborigène d'Australie, qui en fait écrit sur une pratique de l'économie qu'il essaie de mettre en place avec un groupe d'artistes, de militants et d'économistes localement. Donc, je dirais toute la gamme des positions sont explorées, du sérieux le plus revendiqué à l'absurde le plus délibéré. En fait, on a vraiment toute la gamme des possibilités.
Alors, parmi ces possibilités, et puis pour rentrer encore un peu plus dans le détail de cette anthologie, le genre du manifeste est, comme on pouvait s'y attendre, assez représenté dans cette anthologie, avec des textes donc, qui sont aussi accolés, comme tu disais tout à l'heure, à des œuvres ou à des expositions. Alors, l'anthologie ne présente pas de reproduction d'œuvres, évidemment, mais il y a certains textes quand même qui font référence à des œuvres spécifiques, et je voulais te proposer un petit parcours, en fait, dans ces textes-là, en commençant donc par un manifeste, celui de Merle Laderman-Ukeles, un manifeste pour un art de la maintenance, qui est suivi d'une proposition pour une exposition. Le titre original est « Maintenance Art, Proposal for an Exhibition ». Tu commenteras peut-être la traduction que tu proposes. C'est un texte de 69 dont je vais lire un extrait. Alors le texte se présente sous la forme d'un plan, hein, avec des grands 1, des grands A, des grands B. Donc je lis le 1C où Ukeles donc présente ce qu'elle appelle les idées. Donc grand C, la maintenance, c'est chiant. Ça bouffe tout ton temps. Le cerveau s'enlise et s'énerve sous l'effet de l'ennui. Notre culture accorde un statut minable au boulot de maintenance. Égal salaire minimum. Femmes au foyer, égal travail gratuit. Nettoie ton bureau. Lave la vaisselle. Nettoie le sol. Lave ton linge. Lave tes orteils. Change la couche du bébé. Finis le rapport. Corrige les coquilles. Répare la barrière. Satisfais le consommateur. Vide les poubelles qui puent. Attention, ne te fourre pas des choses dans le nez. Qu'est-ce que je vais me mettre ? Je n'ai pas de chaussettes. Pète tes factures, ne salis pas. Mets de côté, lave-toi les cheveux, change les draps, va faire les courses. Je n'ai plus de parfum, répète. Il ne comprend pas. Rebouche la fuite. Ça coule, va au travail. Il est poussiéreux cet art. Débarrasse la table, rappelle-le. Tire la chasse. Reste jeune.
Alors j'étais assez heureuse de traduire ce texte de Ukeles, qui est à la fois très connu et paradoxalement n'avait jamais, à ma connaissance, été traduit en français dans son intégralité. Alors ça posait en effet des problèmes de traduction, puisque donc maintenance art, c'est vrai que de manière plus naturelle, on aurait pu le traduire comme un art ménager ou un art domestique, ce qui avait été proposé par certains auteurs auparavant. On a choisi de conserver cet anglicisme, en fait, un art de la maintenance, pour jouer en fait tout au long du texte sur l'ambiguïté, le double sens de ce terme de maintenance. La maintenance, c'est à la fois évidemment les travaux d'entretien, les tâches domestiques, mais dans le texte, la maintenance, c'est aussi vraiment cette idée de maintenir, de préserver, de garder en vie, cette idée de conserver en fait la culture, la vie, la société telle qu'elle est, dans une perspective du soin en fait, du care. Et donc voilà, ça nous a paru finalement le mieux que d'en rester à ce terme un petit peu étonnant de maintenance. Alors c'est un texte qui m'importait aussi parce que, en fait, quand j'ai composé l'anthologie, j'ai cherché à équilibrer un petit peu plus les auteurs et autrices, chercher des artistes femmes qui auraient pu contribuer sur ces questions, hein, de théoriser, de discourir sur l'économie. Et il m'est apparu que c'est un genre qui n'a pas été beaucoup pratiqué par les femmes. Et ça m'a amené à réfléchir sur la dimension genrée de la position, de la posture d'économiste. C'est ce que tu suggérais tout à l'heure. Moi, je suis assez d'accord avec cette question. Hein. Écrire en tant qu'économiste, se donner l'autorité, la position comme ça d'autorité de l'économiste, c'est déjà, dans une certaine mesure, assumer une position dominante et une position assez masculine. Les artistes femmes qui écrivent sur ce sujet et qui sont inclus dans l'anthologie, nous, de manière très singulière, nous amènent à découvrir un pan de l'économie qui reste souvent invisible sous la plume des artistes hommes, et notamment l'économie domestique. Donc vraiment l'angle aveugle de l'économie capitaliste et de la théorisation de l'économie de manière générale. Donc c'est assez intéressant qu'à cet égard, les artistes hommes ne soient pas si différents des économistes standards. Et il revient à des artistes comme Kélès de vraiment mettre l'accent sur ce travail domestique, non rémunéré, invisible, qui est pourtant au cœur de toute la machine de l'économie capitaliste. Donc comme tu le disais, c'est un texte qui se veut aussi une proposition pour une exposition. Il est très intéressant dans sa manière de détailler une exposition qui comprend à la fois un aspect plastique. Donc l'idée, c'est que l'artiste elle-même se met en scène dans cette occupation domestique quotidienne. Et de fait, dans plusieurs performances des années 1970, on verra Ukeles nettoyer le sol du musée, l'escalier d'accès au musée, ramasser les ordures, donc effectuer elle-même toutes ces tâches domestiques quotidiennes aux yeux du public. Mais dans son projet, elle accompagne ça d'une enquête qui est véritablement sociologique et qui rejoint en fait ce qu'on disait tout à l'heure sur la perméabilité des sciences économiques et sociales telles que le conçoivent les artistes. Cette idée que l'économie, c'est pas seulement une science théorique, c'est aussi une réalité du travail qu'on essaye de montrer, de mettre en lumière.
Alors, pour poursuivre un peu ce petit parcours à travers les textes qui s'accolent ou qui font référence, ou qui sont accompagnés ou qui même sont partie prenante d'œuvres. Je voulais te proposer de considérer peut-être d'abord le travail d'Øyvind Fallström, donc dans le texte qui est présenté dans ton anthologie, accompagne une œuvre intitulée Samba, enfin Some of My Basic Assumptions, dans lequel cet artiste donc suédois crée une peinture variable, comme tu l'as décrit, enfin comme il l'a décrit. Qui est en fait, si je comprends bien, une plaque de vinyle découpée et peinte à l'acrylique avec des aplats de couleurs sur lesquels sont ensuite positionnés des éléments magnétiques qu'on peut déplacer et que donc chacune de ces diagrammes en quelque sorte vient illustrer à l'aide d'images inspirées de la bande dessinée, de diagrammes ou d'icônes, des principes économiques. Alors j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de cette œuvre et de comment le texte y fait écho, d'autant que ça fait référence aussi à tes recherches actuelles sur les musées d'économie.
Oui, alors le texte de Fallström, il est intéressant en effet parce que à la fois c'est un texte abouti, fini, qui avait été publié en tant que tel, mais on voit aussi que c'est un texte source en fait. Pour Fallström, c'est une manière de mobiliser les connaissances, de mobiliser ses lectures comme une étape préparatoire à la réalisation d'œuvres. Et en effet, Fallström réalise à ce moment-là des œuvres absolument extraordinaires qui prennent parfois une forme cartographique ou diagrammatique et dans lesquelles ces faits économiques, ces concepts économiques, ces relations de domination économique qui sont décrites dans son texte viennent prendre une forme visuelle à l'aide donc, de petits dessins, de petites scènes un petit peu caricaturales, de statistiques visuelles. Donc on est vraiment au nœud en fait de la pratique discursive et de la pratique plastique. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, ici. Hein. C'est vraiment une forme de pensée en acte, de pensée visuelle qui se joue ici.
Alors dans un tout autre registre, mais qui va nous amener aussi à envisager les rapports de l'économie de l'art au travail de l'artiste, je voulais peut-être m'arrêter un instant sur le travail, enfin le texte d'Alan Sekula, qui s'intitule « La photographie entre travail et capital », un texte de 83, qui accompagne, si je comprends bien, une présentation d'un ensemble d'archives assez intéressant, hein, d'un studio photographique installé dans une ville minière, et donc qui rassemble un ensemble de photographies, dont certaines sont commandées d'ailleurs par les dirigeants, hein, des installations minières, et d'autres plutôt documentaires autour donc de cet élément central du capitalisme industriel qu'est le travail minier. Et donc c'est un texte dans lequel Alan Sekula s'interroge vraiment sur les rapports entre culture photographique et vie économique. Donc ça permet aussi d'aborder peut-être un médium artistique, la photographie, qui je crois est présent dans l'anthologie essentiellement à travers ce texte-là. Est-ce que tu pourrais donc nous en dire un peu plus ?
Oui, alors c'est un projet qui est à la fois un projet de travail sur les archives photographiques et je dirais sur la culture visuelle de la mine de manière plus générale, et un projet de texte, un projet théorique. Donc c'est un texte pardon qui vient d'un livre de photographie dans lequel Sekula travaille sur les archives du studio d'un photographe commercial qui s'appelle Leslie Shedden, qui a travaillé dans la petite ville de Cape Breton, donc au Canada, entre 1948 et 1968. Et ce qu'essaie de faire Sekula dans ce livre, c'est de faire sens de cette collection de photographies qui ont tout un rapport direct ou indirect à la mine, mais qui présente différentes facettes, c'est-à-dire qu'on a à la fois en effet des photographies commanditées par l'entreprise minière elle-même, des photographies corporate, et des photographies de famille, des photographies qui ont été commandées par les mineurs eux-mêmes ou leur entourage. Et en réfléchissant à partir de ce matériau-là, Sekula va bâtir un texte historique, critique et théorique sur la place de l'image dans le capitalisme industriel, à partir de l'exemple du rôle de la photographie dans la mine, en fait. Et c'est un exemple extrêmement intéressant où la pensée se déploie dans l'image, dans le fait d'histoire économique, et produit de la connaissance vraiment dans les deux domaines, je dirais.
Donc ce double mouvement aussi quand même de l'anthologie, hein, qui va vers la théorisation, vers la discipline économique, et puis qui aussi va vers la figure de l'artiste en travailleur, ou de l'artiste comme travailleur parmi d'autres, m'amène à peut-être introduire aussi un autre aspect de cette anthologie, avec en particulier deux textes, hein, celui de l'artiste activiste catalane Nura Güell, et celui du collectif WAGE, Working Artist in the Greater Economy, donc en particulier leur lettre ouverte, dont je propose qu'on lise un petit extrait, hein, qui constitue en fait deux paragraphes distincts de ce texte-là, donc qui s'appelle Dear Artist en anglais, et que tu as traduit à lettre ouverte à artiste, et qui nous a semblé faire écho de manière intéressante à la situation actuelle. Artiste. De la même manière que chacun et chacune d'entre nous participe à rendre possible l'exploitation, nous avons aussi le pouvoir de lui résister. Et il nous faut le faire maintenant, en ce moment critique de transition. Car alors que débute le lent mouvement de passation de pouvoir présidentiel, naît aussi la nostalgie avant l'heure pour un monde de l'art progressiste et les appels à le maintenir tel face à ce que l'avenir nous réserve. Bien qu'il se compose à la fois d'entités commerciales et non lucratives, le monde de l'art est une industrie comme une autre. Toutes les institutions qui le soutiennent, y compris la philanthropie, contribuent au maintien et à la croissance de cette industrie. Et toutes celles et ceux qui prennent part à son économie en concourant à la production et à la distribution de produits artistiques, artistes inclus, en sont très banalement les soutiens et les victimes. Le rôle de l'art et des artistes dans cette industrie multimilliardaire et de servir le capital, comme tout le monde.
Oui, alors WAGE, donc c'est une organisation qui est assez bien connue maintenant, une organisation à but non lucratif qui a été fondée à l'origine en 2008 pour militer pour une répartition plus juste des revenus, des richesses au sein des acteurs du monde de l'art. Donc c'est une organisation qui est évidemment née à la suite de la crise financière, du mouvement Occupy et plus spécifiquement Occupy Museum. Et cette lettre entre, je dirais, dans une séquence de textes qui sont produits à ce moment-là pour dénoncer en particulier un double discours qui vient en fait masquer la réalité d'une économie paradoxale. Pardon. Alors ce double discours, c'est évidemment une injonction à un art qui serait d'autant plus pur, d'autant plus authentique qu'il serait éloigné des considérations bassement matérielles et de la nécessité de gagner sa vie, en fait. Et la réalité derrière, c'est une économie paradoxale, c'est-à-dire une économie de l'art qui est riche, qui mobilise des budgets extrêmement importants, des budgets d'exposition, des budgets de production, de transport d'œuvres, de marketing qui sont très élevés. Une économie riche aussi quand on voit les prix records en vente aux enchères, mais pourtant une économie qui accorde une part très très faible de ces sommes, de ces budgets, à la rémunération des artistes eux-mêmes et elles-mêmes, c'est-à-dire à ceux qui produisent les contenus. Et c'est dans la dénonciation en fait, de cette forme d'économie et de ce qui le rend possible, c'est-à-dire cette mythologie d'un artiste ou d'une artiste qui ne devrait pas en fait, se soucier d'être payé. C'est cette dénonciation-là qui est au cœur de la lettre ouverte de Wage, avec l'injonction faite aux artistes de se penser comme travailleurs et comme travailleuses et d'exiger une rémunération. En fait, le mot final de cette lettre, c'est si vous voulez être véritablement politique, demandez à être payé. Voilà, demander à se faire payer devient un acte politique par excellence.
Et puis ça rejoint, j'ai l'impression, l'activité de collectif ici en Europe, hein, dans le monde francophone. On peut penser à Wages For, Wages Against en Suisse. Et puis aussi à Rangrève, le collectif L'Abuse ici à Paris. Et puis pour terminer peut-être sur une référence à la grille des programmes de Dieu Radio, à l'émission Fortune, d'Eva Barthaud et Estelle Labérin. Eh bien, Sophie, merci. J'ai l'impression qu'on a réussi à peu près de Reskin à Estelle Labéra et Eva Barthaud à balayer un champ assez large et qui représente un petit peu la diversité de textes et d'idées que rassemble cette anthologie. Alors, merci.
Merci.
Je présume être un artiste révolutionnaire, avec une vision du monde et la mission de la mettre en œuvre. Je souhaite éradiquer l'exploitation de l'homme par l'homme, atteindre une distribution équitable des biens et des tâches, bâtir une société juste, libre et sans classe. Pour que ma mission puisse réussir, je dois m'adresser à un public très large, chose qui ne sera possible qu'en me dotant d'une grosse production et d'un bon système de distribution de mes œuvres. La production nécessaire pour atteindre un public, qui pourrait être converti à mes idées, ne peut être atteinte à travers une approche artisanale restreinte. J'ai besoin de moyens qui soit aussi efficace que possible, et d'assistants qui puissent effectuer les tâches qui n'exigent pas mon effort créatif et peuvent être exécutées suivant mes instructions. Ayant des moyens limités pour l'acquisition d'équipements, je dois me servir de mon ingéniosité pour faire de bonnes affaires, tirer profit des erreurs des vendeurs et négocier à mon avantage. En d'autres termes, je dois agir avec plus d'intelligence que ceux qui m'exploiteraient si j'étais imprudent. La même contrainte économique m'empêche d'employer des assistants au salaire qu'ils méritent. Je dois tâcher de les payer aussi peu que possible, en prolongeant leurs heures de travail pour tenter d'atteindre un maximum de productivité avec un minimum de frais. Si cette opération me permettait de faire quelques économies, celle-ci serait investie dans davantage d'équipements ou d'employés soumis aux mêmes conditions de travail. Le plus grand obstacle à la diffusion de mon travail est la concurrence. D'autres artistes, qu'ils partagent mes idées ou qu'ils s'y opposent, interfèrent avec le contact potentiel que je peux avoir avec le public. Le public dépense de l'argent pour acquérir des œuvres qui ne sont pas miennes, une somme qui pourrait servir à améliorer et augmenter mes propres moyens de production, pour des œuvres qui détournent leur attention de mes objectifs révolutionnaires. je dois être en mesure d'abattre ces obstacles pour établir mon travail. Je ne peux éliminer physiquement les artistes qui rivalisent avec moi. En revanche, je peux tenter de nuire à leur image, propager des rumeurs, créer des rivalités avec leurs marchands, et plus généralement, essayer de saboter leur système de distribution. Avec un peu de chance et de manipulation, je pourrais alors absorber ces réseaux de distribution et assurer ma prééminence aux yeux du public. Cela me permettra d'augmenter mes ventes, pour ensuite accroître et améliorer mes moyens de production. Je serai en mesure d'atteindre d'autres publics, plus internationaux. Le jour où mes idéaux révolutionnaires se concrétiseront, sera alors à portée de main.
Louis Kamitzer, Manifeste, 1982.